Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien, Amna, l'Afrique en culture.
Et aujourd'hui, nous aurons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste bourré de talent, un univers engagé, teinté de pop électro bien aiguisé. Nourad sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de son nouveau son, Satire, mais également de ses projets futurs. Ça sera dans quelques minutes dans l'Afrique en culture. Nous parlerons également cinéma avec ce documentaire restauré Classified People, filmé clandestinement en Afrique du Sud durant le régime d'apartheid. Un documentaire poignant signé Yolande Zoberman. Un documentaire unique qu'on se fera un plaisir de décrypter pour vous. Sinon, nous parlerons jazz, bien sûr, puisque le 30 avril, Tanger fêtait la journée internationale du jazz, ville hôte mondiale. Elle a accueilli les festivités cette année, notamment avec un concert d'anthologie. On en parle dans quelques instants avec Mohamed Mehdi, Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui sera avec nous. Et comme promis en début d'émission, place tout de suite à la musique. Une musique assez éclectique, pétrie par plusieurs influences musicales. Et je parle de l'univers artistique de Nourad, un jeune homme qui nous a fait vibrer avec sa musique engagée et son univers éclectique de père corse et de mère marocaine. Ça fait 10 ans qu'il est revenu au Maroc prendre racine. Il est avec nous et on parle de son amour pour la musique, mais également de ses projets futurs.
J'avais l'habitude de jouer tout seul avant même de prendre des cours. Et c'est ce qui a fait, en fait, ça m'a vraiment introduit dans le milieu de la musique. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mes mélodies et ça m'a donné envie de composer, de produire et d'écrire.
Et c'est vrai que, voilà, comme je disais tout à l'heure, ton univers musical, on a du mal à le définir et c'est tant mieux parce que, voilà, il y a plein de courants musicaux qui s'y rencontrent. Si tu devais définir ton univers musical, tu le définirais comment, Nourad ?
Globalement, ça serait de la pop électronique si je dois donner un style, mais je trouve que ça sert à rien de donner un style précis à une musique. Je suis plutôt de cette école-là parce qu'on peut avoir différentes influences et je trouve que le secret, en fait, d'un artiste, c'est vraiment de tout écouter, quel que soit le genre, et d'essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui va nous plaire, qu'est-ce qui va nous faire vibrer. Et puis après, derrière, de trouver peut-être des similitudes, des similités, hein, et se dire, pourquoi pas essayer de faire ça. Puis après, ça crée, on crée, et puis il y a le cerveau qui rajoute tout ce qu'il faut, et puis ça crée une musique, quoi.
Et tu as des origines diverses, puisque voilà, ta maman est d'origine marocaine, ton papa est d'origine corse. Ça fait quelques années que tu t'es réinstallée au Maroc. Pourquoi ce choix et quel a été l'impact de cette double culture sur ton univers artistique, mais également toi en tant qu'artiste ?
Ça peut être un impact dans le sens où d'un côté, quand j'ai été élevé, j'ai eu ce côté corse et de l'autre côté, j'ai mon côté marocain. Donc déjà, on sent qu'il y a un mélange. Donc du coup, c'est aussi ce qui se retransmet dans mes musiques où j'adore prendre plein de styles différents, les mélanger, essayer de voir comment ça marche. Et donc du coup, je pense que ma façon de composer, ça peut jouer vraiment par rapport à ça, cet éclectisme en fait, ce mélange de cultures que j'ai vécu dans ma vie, je le retransmets dans mes musiques.
Et quel est l'impact de la musique marocaine sur ton univers musical ? Est-ce que ça a une place importante ? Est-ce que c'est un pilier pour toi ?
Ça l'est comme plein d'autres styles musicaux en fait. Je sais que quand j'étais petit, mon grand-père écoutait beaucoup de raï. D'ailleurs, il jouait de la flûte dans les mariages à l'époque. Ensuite, ma mère m'a beaucoup aussi fait écouter de la musique, que ce soit andalouse, que ce soit plein de styles en fait différents. Et je pense que ça a joué, mais c'est surtout dans mon éducation musicale qui a fait ce que je fais aujourd'hui et pas forcément, comme je disais tout à l'heure, un style musical précis.
Et dernièrement, d'ailleurs, on voit les images, voilà, ce single qui va sortir, le single, en tout cas le clip. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce morceau? Voilà, un morceau très engagé, notamment dans les paroles, mais également dans les images. Est-ce que tu peux nous en parler, Nourad?
Ben, en fait, j'ai composé, c'est pas le premier titre des autres morceaux, c'est pas la première compo que j'ai sortie, mais je l'ai fait après quelques autres morceaux qui sortiront bien sûr plus tard. Et en fait, en voyant tout ce qui se passe, en voyant cette banalisation de la violence, en fait, on peut pas regarder un programme sans qu'il y ait de la violence aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut, en fait, il y a des violences partout, il y a des guerres de partout, il y a des innocents qui meurent de partout, et je trouve qu'il faut, il faut, à un moment, il faut en parler. Et il faut essayer d'en parler par n'importe quel moyen. Ça veut dire que, à l'échelle humaine, c'est-à-dire à mon pote, je vais en parler, et pareil, ben, si j'ai envie d'en parler à un plus grand public, ben là, j'ai décidé d'écrire une musique sur ça pour justement essayer de toucher les gens et dire, ben, maintenant, les gars, faut arrêter de banaliser cette violence. Enfin, il y a trop de choses horribles en fait qui se passent aujourd'hui dans le monde, et je trouve que si on s'unit pas, si on n'arrive pas à rester soudé, à avoir de la compassion pour tout ça, ben ça s'arrêtera jamais. Et en gros, ben, on banalisera toujours les guerres, on banalisera toujours des morts en fait. Et je trouve ça, moi, vu ma position et vu ce que je pense, ben je suis contre ça en fait. Je suis contre cette violence, et c'est fatigant aujourd'hui de voir tout ça en fait, et ça serait bien que ça s'arrête en fait à un moment.
Et donc ce single s'attire, qui, j'imagine, comme vous venez de le dire d'ailleurs, Nourad, qui n'est pas la première composition. Est-ce que cela annonce un nouvel album, un EP? Voilà, qu'est-ce qui se prépare derrière ça?
Alors il y a plusieurs morceaux qui parlent de thèmes différents, mais toujours dans la même musicalité et avec ma patte. Et en gros, là, ce que j'aimerais faire, c'est sortir plusieurs singles au début avec des supports vidéo, avec des clips, avec toujours la même équipe, parce que c'est une super équipe avec laquelle je bosse, et j'ai vraiment énormément de chance d'avoir une équipe comme ça. Et en gros, ben, peut-être plusieurs singles, et après faire mon album, tout englober, faire mon album avec vraiment un fil directeur et une cohérence.
Et en parlant de fil directeur de cohérence, est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que ça sera un album totalement engagé ou avec des thématiques différentes?
Eh bien, en fait, ma musique, c'est donc à la fois de la musique, à la fois du feeling que je veux retransmettre. Je veux aussi retransmettre des émotions. Donc, ça veut dire que je peux parler de la guerre parce que c'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose qui me touche énormément. Mais je peux aussi parler d'autres choses qui peuvent me toucher et qui peuvent toucher aussi différentes personnes. Tout dépend de comment on conçoit et comment on comprend cette musique-là. Je sais que, par exemple, il y aura une musique qui va sortir, ben, la prochaine, qui sortira, qui sera Salam Aleikoum, où c'est à la fois un message de bonjour, mais aussi à la fois un message d'au revoir. Et ça, ben, vous le verrez prochainement, quand ça sortira, j'espère.
Et on sera au rendez-vous, Nourad. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc le clip sort le 6 mai. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait, regarder les images. Merci beaucoup, Nourad.
Merci à vous et merci pour votre accueil.
Merci, avec plaisir.
Et ça tire, des gens voient leur rêve s'éloigner, de leurs navires qui chavirent, n'ont même plus leurs yeux pour pleurer. Et ça tire, on donne des armes à des enfants. Ils ont perdu le sens du rire, sont passés de dessin à bain de sang. J'aimerais te dire que tout va bien. Mes camarades, aujourd'hui c'est la crise. Trop d'innocents qui sont morts pour rien. Sous les bombes des familles qui se brisent.
Et
après avoir parlé musique avec notre invité Nourad, tout de suite, je vous propose de parler cinéma avec Classified People, filmé clandestinement en Afrique du Sud durant le régime d'apartheid. Ce moyen-métrage unique en son genre, tranchant, met en lumière la politique de ségrégation raciale instaurée pendant 43 ans. La réalisatrice est infiltrée dans les recoins les plus insoupçonnés des existences de ces gens classifiés. Classified People, la ségrégation raciale au sein des familles. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Doris is 71. She's Robert's second wife. Robert is 91. In 1914, he joined the Colored Battalion and fought in France in the First World War.
Then the apartheid came in. They were white and he was, classified, colored.
Classified People de Yolande Zoberman, un documentaire unique, poignant, de 48 à 91. Les citoyens sud-africains étaient rangés selon une classification raciale précise qui distinguait quatre catégories. Les blancs, les indiens, les métis et les noirs. Dans Classified People, on suit Robert, face caméra, ce nonagénaire qui raconte qu'à l'instauration de la loi, le tribunal administratif l'a jugé métis, tandis que sa femme et ses enfants ont été considérés comme blancs. Ils ont fini, bien sûr, par le rejeter. Depuis 25 ans, l'homme vit dans une modeste maison d'un quartier pauvre et partage sa vie avec sa nouvelle femme, Doris, une femme noire de 70 ans, aimante et témoin privilégié de l'humiliation vécue par son conjoint, qui, pour toute faute, a eu le malheur un jour de se porter volontaire pour rejoindre un régime métis durant la Première Guerre mondiale. Classified People, premier documentaire de Yolande Zoberman, date de janvier 87. Le film avait été nommé au César en 89 dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire et il sort dernièrement dans une version restaurée. Le film, je le rappelle, suit Robert, métis de 91 ans et Doris, sa femme noire de 71 ans. Le couple vit ensemble depuis 25 ans. Ils sont mariés, ils symbolisent bien sûr l'absurdité de la classification raciale puisqu'avant d'être métis, Robert était considéré comme blanc, marié à une femme blanche avec qui il a eu des enfants blancs. Mais puisqu'il s'était enrôlé dans des troupes métis lors de la Première Guerre mondiale, l'ancien soldat était reclassé métis. Sa femme et ses enfants l'ont abandonné et sa vie a basculé du jour au lendemain. Et comme elle le dit dans sa note d'intention, la réalisatrice Yolande Zoberman, Classified People, c'est surtout un film sur l'amour, un film d'amour. Robert et Doris incarnaient un désir plus grand que la peur, plus grand que la haine. Il y avait l'apartheid, c'est dans son contraire, l'amour fou entre un homme et une femme que j'ai trouvé la plus parfaite expression de son absurdité. Et tout de suite dans l'Afrique en culture, nous parlons jazz, puisque ce 30 avril, Tanger a vibré aux sonorités jazzy. Tanger a accueilli les festivités cette année à l'occasion de la Journée internationale du jazz, dont Tanger a été la ville hôte. Superbe concert, donc le All Stars Global Concert a offert au public des performances extraordinaires réunissant des artistes de renom tels que la légendaire chanteuse de jazz Dee Bridgewater, la chanteuse du jazz Jasmeya Horn, sans oublier le batteur et compositeur électronique John Cook Kim et bien sûr le maître Ghinawi, le Maalem Abdullah Al-Gourd ou encore la célèbre artiste de jazz mozambicain ou encore le célèbre artiste de jazz mozambicain Morera John Gissa. Et nous revenons ensemble sur cet événement mondial avec le ministre de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication marocain Mohamed Mehdi Ben Saïd au micro de Antoine Casalta.
On est très honoré aujourd'hui de pouvoir inaugurer ce lieu prestigieux qui est le Palais des Arts par cet événement international. Je rappelle que ce lieu a connu, les travaux de départ ont été lancés par Sa Majesté, le roi de la Insro. Et aujourd'hui, cet événement est sous le patronage de Sa Majesté, ce qui démontre encore une fois l'importance de la culture dans le royaume. Et bien évidemment, le ministère de la Culture fera tout ce qu'il a en son pouvoir pour justement rendre ce palais vivant culturellement. Il y a toute une stratégie derrière avec la mise en place de ressources humaines nécessaires, des annexes de l'ISADAC, de l'ISMAC, des écoles de théâtre et de cinéma donc, qui sont présentes ici pour les Tangérois et les Tangéroches, pour les étudiants Tangérois et Tangéroises, et bien évidemment un partenariat qui sera fait aussi avec les associations culturelles locales pour promouvoir la culture et pour faire vivre ce lieu, parce que l'objectif est de le faire vivre bien sûr.
C'est l'occasion aussi pour le Maroc de développer une nouvelle forme de soft power culturel qui sort un peu des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le Maroc, ou en tout cas de montrer, de développer une nouvelle facette de cette exposition.
C'est une continuité de ce qui a déjà été entamé auparavant, depuis plus de 20 ans maintenant, Sa Majesté le Roi, de par l'intérêt que nous portons, qui porte à la culture, à installer réellement ce soft power culturel. Et donc aujourd'hui, c'est un renforcement de cette idée, de cette stratégie, et au-delà de stratégie, de cette manière tout simplement de vivre des Marocains et des Marocaines, de cette vision royale que nous essayons de mettre en place, évidemment.
Et après avoir parlé musique avec la journée internationale du jazz qui a été fêtée en grande pompe à Tanger, notamment le 30 avril, je vous propose tout de suite de parler littérature avec ce classique de la littérature contemporaine africaine, L'ombre d'Imana de Véronique Tadjou. Il est question de devoir de mémoire, de participer au processus de paix entre Kigali et Kinshasa, puisque dans les années 80, comme dira Véronique Tadjo, quand j'ai commencé à écrire à Abidjan, c'était en quelque sorte dans le vide, pas dans le sens où je n'avais aucune tradition littéraire. Au contraire, j'avais lu beaucoup de poésie. J'avais aussi lu avec passion les poètes du mouvement de la négritude. Leur engagement politique tissé de lyrisme m'avait conquise. Et d'un autre côté, j'avais réalisé très tôt que je vivais dans une société où les inégalités et la pauvreté représentaient de véritables problèmes. Invitée en 98 dans le cadre d'une résidence d'écrivain, Véronique Tadjo se rend au Rwanda, pour cette Ivoirienne le pays d'emblée familier. C'est en se heurtant pour la première fois aux conséquences d'un génocide qu'elle a tenté de comprendre comment une telle humanité peut exister. Véronique Tadjo témoigne, puis donne la parole à ceux qu'elle a croisés dans ce roman. Les prisonniers, les victimes, les femmes, les malades, les enfants perdus, les réfugiés, les absents. Tout un peuple qui aujourd'hui raconte la douleur et la peur à travers cette mosaïque de dessins qu'elle nous confie en les faisant confesser à leur tour à l'ombre d'Imana. Un livre à découvrir ou à redécouvrir d'urgence, signé Véronique Tadjo, qui sera au Ciel, donc le salon international du livre qui ouvrira prochainement ses portes. Et on sera bien sûr au rendez-vous dans l'Afrique en culture qui touche déjà à sa fin. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité, de votre écoute. N'oubliez pas que l'Afrique en culture, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. Et tout de suite, un peu de légèreté, de musique, de fraîcheur avec Master KG, La Lei, sans featuring avec Joe Boy. Très bonne écoute à tous et très bonne suite des programmes sur Média. Everything.